Bienvenue sur mon Postpartum, le podcast qui parle de la maternité autrement. Je m'appelle Sarah, et depuis que je suis devenue mère, je cherche à comprendre pourquoi un événement qui est dépeint comme un bonheur ultime est en réalité jonché de difficultés, d'incompréhensions, d'injonctions et parfois même d'oppressions. J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre du livre des mères. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels, avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux et politiques de la maternité. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser sur vos doutes. Si vous voulez soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. Et pourquoi pas à me laisser un commentaire en plus, ça me ferait très plaisir. Devenir mère ou ne pas devenir mère? Telle est la question. Pour Laetitia, c'est une réflexion qui s'est invitée progressivement il y a peu. Avant cela, il n'était pas dans ses projets de faire famille. Mais alors, est-ce la pression sociale? Ou cette fameuse horloge biologique qui se réveille? Ou encore un besoin de s'accomplir à travers une autre casquette? Avec Laetitia, on a essayé de faire un petit tour d'horizon de ses réflexions. On a parlé de son non-désir d'enfant dès son plus jeune âge, de ses remises en question sur un sujet qu'elle pensait acté, de ses recherches sur la maternité et les conséquences d'avoir un enfant dans la vie d'une femme, de ses craintes de tous ces changements qu'elle pourrait vivre, des sentiments qui la déstabilisent mais l'aident aussi à mieux se comprendre, et enfin, du temps qu'elle se laisse pour réfléchir et accepter son indécision.
Alors, donc, je m'appelle Laetitia, je vais avoir bientôt 35 ans. Je suis freelance, je fais de la création de contenu, je travaille dans le social media, le marketing d'influence, hein, je fais plein de choses différentes. Je viens pas d'une très grande famille, j'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, et j'ai l'impression qu'elle aura toujours 8 ans pour moi, mais bon, elle en a bientôt 31. Et je suis en couple paxé depuis bientôt 6 ans. Avec un garçon très bien.
Ouais, bah, c'est super tout
on
ça.
Les aime les garçons très bien.
C'est sûr. Et moi, je serais curieuse de connaître un petit peu ton cheminement vis-à-vis de la maternité. Forcément, ici, on parle principalement de maternité. Je voulais savoir quelle posture tu avais par rapport à ça. Est-ce que tu souhaitais avoir des enfants ou non? Comment tu te situais par rapport à la maternité depuis ta plus tendre enfance?
Oui. Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours dit que j'aurais pas d'enfants.
J'ai toujours
ah oui. Toujours dit que je voulais pas d'enfant, que je n'aurais pas d'enfant. Et j'ai un souvenir assez marquant, et c'est drôle. On était à la halle à la maison,
ouais.
À l'époque où ça existe encore, avec une de mes tantes qui n'a pas eu d'enfant, et pas par choix, hein, parce que ça n'est pas arrivé malheureusement.
Ouais.
Et je lui ai dit que moi, je n'aurais pas d'enfant, que je ne voulais pas d'enfant.
Et tu avais quel âge?
J'en sais rien, mais je dirais moins de 10 ans, c'est sûr.
Ah oui, quand même. Donc, c'est jeune, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Et je ne sais pas si je le disais par esprit de contradiction, parce que j'avais un petit côté comme ça, quand j'étais plus jeune et enfant, à ne pas vouloir... À vouloir être à contre-courant, à ne pas vouloir être comme les autres,
ouais.
À vouloir penser comme les autres. J'avais envie un peu de me démarquer, et je me demande si c'était pour cette raison ou si c'était déjà je me sentais déjà pas
attirée
par la maternité. J'ai jamais trop joué avec les poupées, j'ai préféré les Barbies, les trucs comme ça, mais je me suis jamais j'ai pas de souvenir d'enfance où je me prenais pour une maman. Je me suis prise pour une maîtresse beaucoup, mais pas vraiment pour une maman. Et ma tante, je me souviens qu'elle m'a dit que je ne pouvais pas dire des choses comme ça.
Et tout le monde réagissait comme ta tante ou t'avais...
Je sais pas. Je pense que mes parents ont dû me dire de toute façon, t'es beaucoup trop jeune pour avoir un avis sur la question. Mais la réaction de ma tante, elle m'a vachement marquée. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, quoi. Ça m'a marquée.
Et tu as continué quand même à le dire.
Ouais, j'ai continué à le dire, ouais. C'est que très récemment que je me suis dit, en fait, peut-être que je ne suis pas si certaine que ça de ne pas en vouloir.
Ouais. Mais pourquoi avant, tu avais quelle image de la maternité pour... Parce qu'en grandissant, ok, quand tu as moins de 10 ans, tu veux être à contre-courant, peut-être te faire remarquer, voilà, avoir ce côté un peu rock'n'roll. Mais en grandissant, la pression est encore plus présente. C'est ce que j'entends souvent. On voit de plus en plus de femmes devenir mères et souvent ça fait des projections par rapport à nous. Toi, qu'est-ce que tu visualisais à ce moment-là, même à la vingtaine, quand tu es devenue jeune adulte?
Ouais. Alors, je vais être obligée de contextualiser par rapport à ma vingtaine. Je suis restée pendant 10 ans avec un homme violent, avec qui je ne me voyais pas d'avenir, ou alors certainement pas un avenir avec des enfants. D'une part parce que j'avais quand même au fond de moi l'espoir de m'en sortir un jour et de partir. Donc faire un enfant avec un homme, t'as peur de lui, t'es très malheureuse et tu dis que ta vie va vraiment être un enfer si tu continues de rester avec lui. Tu vas pas t'attacher à cette personne avec un enfant. Et par ailleurs, lui, faire des enfants, c'était une aberration. Il était vraiment contre le fait de faire des enfants dans ce monde. Et il y avait aussi une dimension assez méprisante par rapport au désir des femmes de vouloir être mère. J'entendais des discours de type « de toute façon, il va y avoir un moment où ton horloge biologique, elle va te sonner ». Et comme toutes les femelles, il utilisait vraiment des mots très, très insultants. Tu vas vouloir te reproduire, vous êtes bonne qu'à ça, etc. Donc en plus, il allait un peu dans mon sens, alors pas en étant... j'avais pas du tout cette vision négative de la maternité. Mais c'était avant de le rencontrer, c'était déjà quelque chose
que tu voulais pas.
Voilà, je me voyais pas mère, c'était pas. Et puis de toute façon, je me suis mise en couple avec lui quand j'avais 19 ans. La question de faire des enfants ou pas, je l'avais mise de côté et je m'étais dit de toute façon, j'en aurais pas. Mais je disais aussi que je voulais pas me marier. Bon, ça, j'ai un peu changé d'avis. Oui. il a été un peu dans ce sens-là. Et puis je voulais pas non plus. Lui donner raison, lui dire peut-être qu'en fait si je voudrais des enfants, vu toute la vision hyper négative qu'il en avait, et donc en étant restée avec lui pendant 10 ans, c'est une question qui ne m'a pas du tout...
Puis t'aurais même pas pu avoir l'espace en fait de réflexion avec quelqu'un d'aussi négatif, si je peux dire ça dans tous les sens du terme, au-delà de la parentalité.
Non, c'est sûr.
Pas te laisser.
Non, bien sûr. Et puis après, autour de moi, j'ai l'impression de faire partie d'une génération où on fait des enfants quand même assez tard, et autour de moi, il y avait quand même peu de gens qui devenaient parents. Et j'avais un entourage restreint, mais qui n'était pas dans cette dynamique de faire une famille tout de suite, etc. Donc j'avais pas non plus la pression sociale du fait que les autres commencent à prendre une direction de vie que j'ai plus maintenant, en fait, à 34 ans, où je vois les gens, effectivement, faire des enfants, avoir des enfants qui commencent à grandir, penser à faire un deuxième enfant, avoir un deuxième enfant. Et là où tu dis, en fait, ouais, il faut peut-être que je me pose vraiment la question... Je vais pas avoir toute la vie pour me décider. J'ai plus 10 ans devant moi, quoi. Donc,
ce serait bien qu'on soit comme les hobbits, tu sais, à vivre des centaines d'années pour se laisser la marge.
Ouais, j'avais dit à ma sage-femme, parce que je lui avais parlé de ça avec elle, et je lui avais dit, en fait, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai encore 20 ans, quoi. Et que j'ai encore 10-15 ans.
Moi, j'ai l'impression d'être une ado, parfois.
Bah, c'est cool de savoir que même quand on est maman, on continue de se sentir comme une ado.
Je me vois pas. Je vieillis, mais je ne me vois pas vieillir.
Ouais. Donc, moi non plus, je le vois quand je vois des photos, je me dis « Ah ouais, mais j'étais un bébé en fait
!» Mais je pense que c'est aussi une question de projection, parce que, je sais pas pour toi, mais moi, étant plus jeune, je me disais « Bah, à cet âge-là, j'aurais déjà tel boulot, j'aurais peut-être fait plusieurs pays et tout. » Et je me rends compte que dans les faits, c'est pas toujours ça. Des fois, tu fais plusieurs boulots différents, tu reprends les études. Enfin, moi, j'ai repris les études à quasiment la trentaine, et j'ai eu des enfants, alors j'en voulais pas. Donc des fois, entre ce qu'on se projette par rapport à la pression de la société inconsciente et ce qui se passe vraiment, tu te dis « Ah ouais, en fait, ça serait bien qu'on vive plus de 100 ans quand même.
» Ouais. Donc on soit comme les hommes, en fait, qu'on n'est pas la pression de la biologie, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a fait que maintenant, parce que là, voilà, tu expliques que tu as 34 ans, donc tu as la trentaine, que tu commences à te poser la question de plus en plus, sans que ce soit un désir viscéral, si j'ai bien compris, mais ça te trotte quand même dans la tête. Tu as fait plusieurs posts sur Instagram, c'est ce qui a fait que je t'ai contactée d'ailleurs. Ouais. Tu lis des livres sur la maternité, donc c'est un sujet que tu essayes d'étudier.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu hésites ?
Déjà, ça m'a vachement déstabilisée d'être persuadée de ne pas vouloir d'enfant et de sentir au moment où j'ai eu des proches, très proches amis qui ont commencé à être mères.
D'accord.
Et à trouver leur enfant hyper mignon, à trouver que ça avait l'air d'être dur, mais aussi génial, et de me dire, en fait, peut-être que ce serait cool d'avoir une petite famille.
Ouais.
Je ne me vois pas de toute façon avec plus d'un enfant, mais j'avais cette vision. J'avais pas cette vision, en fait, avant d'avoir des parents autour de moi et des mères, que ça pouvait être une expérience agréable à vivre. Une expérience.
Donc,
de
toi,
tu
avais le versant négatif, ouais. Et là, tu te rends compte que c'est pas si binaire.
Ouais, en fait, c'était pas que le versant négatif, c'était. J'étais persuadée que j'aimais pas les enfants.
D'accord.
Parce que j'en avais pas dans mon entourage, en fait. Tout simplement, j'étais très peu au contact des enfants. Je suis pas super à l'aise avec les enfants en bas âge. Tu me mets un bébé dans les bras, moi, je sais pas comment faire. Vraiment, j'ai trop peur de faire mal.
Ouais.
Mais.
Oh, mais c'est pas de la répulsion.
Non.
C'est juste de la maladresse.
Ouais. Non.
D'accord.
Après, les bébés ne m'émeuvent pas.
D'accord.
Voilà. Je ne suis pas émue devant des photos de bébés, etc.
D'accord.
Je suis plus touchée par les enfants qui commencent à communiquer. Et je me dis parfois, en fait, peut-être que tu n'es pas obligée d'aimer toutes les étapes de la maternité. Tu n'es pas obligée d'aimer l'étape nourrisson où tu as un petit être humain qui est hyper dépendant de toi et où tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas aller aux toilettes apparemment sans... Voilà.
Là, je fais pas de commentaires, vous le voyez pas, mais je ne peux que valider. Oui.
Voilà. Et peut-être que j'ai l'impression que je me sentirais plus dans ma place dans un rôle de mère d'ado, tu vois. J'ai l'impression.
Avec un réel échange,
ouais,
quelqu'un de construit, qui aurait une identité propre,
ouais.
Et une autonomie, en fait.
Ouais. Aider à grandir. En fait, l'idée de potentiellement aider à grandir un petit être humain qui aura sa propre personnalité, ses propres centres d'intérêt, avec qui on pourra échanger et à qui je pourrais transmettre des valeurs aussi qui ne deviendront pas forcément les siennes. Enfin, j'espère, pour certains trucs basiques de type « je ne suis pas raciste, je suis pas homophobe
».
Je vois, en fait, j'envisageais pas du tout les choses de cette façon-là. Je voyais pas, j'avais pas du tout cette vision de, en fait, ça peut être hyper enrichissant. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres choses. Plus récemment, mon conjoint a eu un grave problème de santé à la fin de l'année dernière. Et j'ai eu une pensée que j'avais jamais eue avant. Je me suis dit, putain, s'il meurt, il me reste plus rien de lui. Alors que si on avait eu un enfant, il continuera à vivre à travers cet enfant. Et ça m'a bouleversée, cette pensée, parce que j'avais jamais ressenti ça.
C'était limite viscéral à ce moment-là, de te dire, j'aurais aimé avoir un lien avec lui, une personne qui est le fruit de notre relation,
ouais,
de notre amour.
Je me suis pas dit que j'aurais aimé l'avoir, parce que j'étais pas... Enfin, j'ai pensé à la possibilité qu'il meure, mais je me suis pas... Hein, j'étais pas déjà en train de me dire il va mourir et il sera plus là, mais je me suis dit... Ok. En fait, le fait que cette pensée m'effleure l'esprit, ça m'a bouleversée de me dire, en fait, il me restera rien de lui, en fait. Mmh. Alors que si on avait un enfant, la moitié de cet enfant serait lui. Mmh. Et voilà. Donc, ça aussi, ça m'a vachement chamboulée de penser à ça. Ça m'a fait me dire que, en fait, j'avais pas. Il y a d'autres choses aussi dont on pourra parler qui me font dire que j'ai pas pris complètement ma décision de non, j'en aurais pas. Et maintenant, je suis un peu plus OK avec le fait que ça fait un an que j'ai commencé à cheminer sur cette question où, effectivement, Alors, je lis pas tant de livres, j'ai lu le livre de Cécile Doherty-Bigara, Nouvelle Mère, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait ressentir des émotions assez. Contradictoire. J'écoute beaucoup de podcasts, dont le tien. Mm. J'aime bien écouter la parole des femmes, en fait, et de voir la diversité d'expériences de ce que c'est être mère dans notre société. Et j'aime bien aussi écouter, et ça, c'est une parole qui est plus rare, des femmes qui ne sont pas devenues mères. Et ouais, c'est assez rare, qui ne sont pas devenues mères et qui n'ont pas non plus une position. je trouve qu'il y a des positions un peu free child, no kids, un peu
militante.
Ouais, tu vois, que je trouve pas, que je trouve presque un peu excluante pour les mères, comme si en fait les expériences pouvaient pas cohabiter sans s'annuler, tu vois. Et c'est ça que je déplore un peu, c'est que j'ai du mal à trouver des discours de femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont... Enfin, en fait, moi, ça m'intéresse des femmes qui ont 50 ans aujourd'hui, en fait, qui ont fait ce choix-là à un moment, en plus, dans la société où c'était probablement encore compliqué. Moins bien accepté que maintenant, quoi. Enfin, et ouais, je trouve pas, et je trouve, et c'est dommage. Mais en fait, le fait de me nourrir de la parole d'autres femmes et des expériences d'autres femmes, ça me permet d'essayer de me projeter. Même si j'ai conscience qu'on ne sait pas la personne qu'on deviendra quand on sera mère.
Mais ça nourrit un petit peu. Ouais. Alors qu'avant, c'était vraiment le saut.
Ouais, carrément, c'est ça, tu ne savais pas trop. Puis ouais, c'est sûr, on a la chance, on a vraiment la chance aujourd'hui de pouvoir. Avec la contraception, décider quand... c'est pas comme ça que ça se décide, mais en tout cas, de décider de pas avoir d'enfant quand on n'en veut pas, et aussi d'avoir la chance de profiter de la libération de la parole sur la maternité pour savoir un peu dans quoi on s'embarque quand on s'embarque là-dedans.
Bah ouais, c'est sûr. Heureusement qu'il y a des ressources, pas que mon podcast, hein, mais des livres,
mères
qui osent dire « bah là, ça va pas, c'est nul » ou « je regrette » ou « non, c'est génial, mais c'est pas si binaire que ça ». Je suis d'accord, c'est quand même rassurant. Mais justement, ça m'intéresse parce que tu expliques que tu as des proches qui sont devenus mères. Tu as l'air de dire qu'il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que tu as pu discuter de ça avec elles ? Est-ce qu'elles comprennent ce cheminement de passer de « je ne veux pas d'enfant » parce qu'elles ont dû te connaître dans cette position-là, de voir peut-être que tu hésites, je ne sais pas si tu t'es ouverte à elles par rapport à ça, et peut-être que tu leur as posé des questions, parce que c'est bien d'avoir des ressources, on va dire, virtuelles, mais parfois c'est bien aussi d'observer un peu ce qui se fait dans le cercle amical ou familial.
Oui. Alors autour de moi, j'ai des femmes qui ont toujours voulu être mère. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux catégories. C'est que j'ai autour de moi donc, des femmes qui ont toujours su qu'elles auraient des enfants et qui s'épanouissent énormément dans la maternité, ou qui font même assez peu... comment dire, elles partagent assez peu leurs difficultés, ou en fait, leurs difficultés ont l'air d'être mises en perspective par rapport à, par exemple, la difficulté d'avoir eu cet enfant parce que c'était pas aussi simple et naturel qu'on s'imagine. Et où, en fait, elles ont l'air de vraiment s'épanouir là-dedans, donc c'est super, mais en fait, je me retrouve pas.
D'accord.
Parce que je ne suis pas sûre d'avoir la personnalité où j'arriverais pas à complètement m'effacer derrière ce rôle-là. J'aurais besoin d'être autre chose qu'une...
D'être toi d'abord.
Ouais.
Avec juste une facette maternelle, ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est parce qu'elle... C'est ce qu'elle met volontairement en avant, ou c'est ce que toi, tu perçois, c'est ce côté où elles se sont laissées engloutir, si je peux dire, par leurs enfants, par ce rôle, en fait, qui est quand même très prenant. Parce que même quand on le veut pas, des fois, on se...
Oui, bien sûr. Pour celles qui partagent surtout le positif, j'ai l'impression que... C'est volontaire, c'est pas du tout subi.
D'accord.
Tu vois, avec des personnes qui se sont mis à temps partiel pour plutôt s'occuper de leurs enfants. Et puis après, j'ai d'autres proches autour de moi où c'est un peu plus nuancé. Enfin, nuancé. Pas que l'autre partie soit pas nuancée, mais où je sens qu'en fait, c'est très épanouissant et enrichissant, mais c'est aussi extrêmement fatigant. Ça implique beaucoup de sacrifices et des sacrifices professionnels aussi.
Souvent, oui. Un socle assez important.
C'est ça. Et malgré la volonté, par exemple, dans le couple, de faire de manière égalitaire, bah, en fait, tu te confrontes à la société où... Toute l'organisation de la société est faite pour faire reposer sur les mères l'éducation, le soin des enfants. Et en fait, même, j'ai l'impression que même dans ton couple, quand tu fais des efforts pour que les tâches soient bien réparties, Et ben, ne serait-ce que parce que on n'a pas un congé parental à durée égale qu'on peut partager entre les deux parents comme on le souhaite. Dès le départ, et ça c'est un truc que j'ai vachement compris en écoutant des podcasts, en écoutant des femmes parler, et même des sociologues en fait réfléchir sur la question de la maternité, de la parentalité, les inégalités elles se creusent dès la naissance en fait. C'est toi qui vas, parce que t'as le temps et tu vas passer 3, 6 mois avec ton enfant, c'est toi qui vas développer des compétences pour t'en occuper. Et en fait, par la suite, qu'est-ce que ça va donner ? Ah bah laisse, je sais faire, je vais m'en occuper, ça va aller plus vite si c'est moi qui le fais.
Puis les hommes ont tendance à se reposer, du coup, comme ils voient qu'on gère.
C'est ça.
Ils se disent, elle gère, moi je peux continuer à aller nourrir le capitalisme.
C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et... du coup, d'avoir ces facettes-là, moi, c'est surtout la peur. Ce qui me fait le plus peur, je pense, c'est de... de plus être moi, de plus être... de plus avoir de temps. Tu vois, ça va paraître égoïste, alors que je pense que faire des enfants, c'est tout aussi... Ça peut être perçu de manière tout aussi égoïste que de ne pas en faire, même si je pense pas que ce soit égoïste. Enfin, c'est pas des choix égoïstes, je pense. Enfin, c'est en tout cas plus compliqué que ça. Mais je me dis, un enfant, au début en tout cas, enfin franchement, jusqu'à ce qu'il soit, je sais pas, qu'il aille à l'école et qu'il arrive à être un peu autonome, qu'il joue dans sa chambre, t'en prends pour 5, 6, 7 ans en fait à te faire passer tout le temps après. Ou alors, ça nécessite peut-être d'avoir les moyens de te faire aider et comme on avait déjà discuté, d'avoir de la famille près de toi qui peut prendre le relais, d'avoir les moyens de pouvoir mettre ton enfant chez une assistante maternelle, etc.
Bien sûr. C'est une logistique et une ressource que tu n'as pas forcément à la base. Ouais. Ou même mentalement, j'irai plus loin parce que au-delà même de toutes ces aides-là, il y a ce côté très psychologique oppressant où tu te sens obligée de te faire passer derrière, alors que des fois, ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'elle le dit aussi dans Nouvelle Mère.
Ouais, ouais.
Et moi, j'applique cet égoïsme où des fois, je n'ai pas envie, je le dis, je n'ai pas envie de faire ça. Et en fait, naturellement, les gens se mettent en avant et j'accepte en fait d'avoir un peu le mauvais rôle, mais finalement... Ouais. Mais ça, ce n'est pas évident. C'est un très gros travail. Ouais.
Et est-ce que tu dis à tes enfants, là, maman, elle a besoin de s'occuper d'elle
Tous les jours. C'est un truc, je mets un point d'honneur parce que... c'est marrant que tu me poses cette question-là parce que ce matin encore, j'avais la tête dans le brouillard. Mon fils me réclamait alors qu'on était ensemble depuis 7 heures du matin. Donc voilà, je lui dis là, j'ai besoin d'un moment, va jouer dans ta chambre. Il a compris, il est parti jouer dans sa chambre. Bon, j'imagine qu'un nourrisson de 3 mois, c'est pas possible. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de se mettre tout le temps en deuxième pendant les 5 premières années. C'est un truc qui se fait progressivement. Et de te dire, si je le fais jamais, personne ne le fera pour moi, en fait.
Ouais.
Donc, mais je te l'accorde, c'est un très gros travail déjà à faire sur toi,
ouais.
À faire et accepter au conjoint, parce que les hommes ont beaucoup l'image de la maman qui, dès qu'elle a un enfant dans les bras, ça y est, elle s'oublie. Mais non, il y a des besoins qui sont beaucoup plus viscéraux, je pense, que la maternité. Et moi, je le dis tous les jours, là, j'ai besoin d'un temps. Ou alors, des fois, je fais carrément la sourde oreille. Maman, elle n'est pas là. Stop. Et en fait, ils finissent par trouver d'autres choses. Tu vois, je pense que ça s'équilibre au final.
Ouais.
Un peu comme dans un couple où des fois, on connaît les limites de l'un et de l'autre. Les enfants, hormis bien sûr s'ils ne sont pas bien et qu'il y a un problème, je ne suis pas non plus à ce point-là.
Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Tu t'es coupée ? Non, on revient voir dans 10 minutes. Non, j'en suis pas à ce stade-là. Mais pour les petites sollicitations qui sont un peu éreintantes et répétitives, des fois, je coupe. Quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, conseil, en fait, comme moi, passez pour une mère Adine pendant quelques temps. Mais les gens s'y feront.
Mais tu sais, c'est un truc qui me fait peur aussi, ça, des attentes après que et ton entourage va projeter sur toi, et la société, la peur du jugement. Ça, c'est un truc aussi, Cécile, elle en parlait dans son livre. Comment tu perçois les autres mères? Attends, comment ça se fait qu'elle a eu le temps de se maquiller? Comment ça se fait qu'elle a les cheveux lavés,
etc. Et c'est très inconscient au début.
Hein.
Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, encore des fois, je vois des gens très pimpants, et moi, je suis là, limite en jogging. Je me dis, mais comment elle a fait ? Et puis, je me dis, mais je ne suis pas dans sa vie, en fait. J'en sais rien, en vrai.
Non,
peut-être qu'elle
sûr.
A des enfants qui dorment mieux. Peut-être qu'elle a qu'un enfant. Peut-être qu'elle a un mari qui ne bosse pas. Et grâce aux réseaux sociaux, je pense que ça nous aide à avoir un peu ce truc. Réseaux sociaux qui disent la vérité. Hein. Je ne parle pas des façades Instagram.
De la maternité.
Voilà, qui disent, je galère et tout. Tu te rends compte, finalement, on est beaucoup plus nombreuses à... C'est plus ambigu et mitigé que ça, en fait.
Ouais. Ouais, bah ça, je veux bien te croire. Mais en fait, si j'essaie de me projeter, je me dis, attends, j'arrive déjà à pas arrêter de me comparer sans avoir d'enfant. Je sais pas si c'est aussi un truc que j'ai envie de dire. Donc il y a plein de choses qui se mélangent entre toute l'organisation, la société. En fait, ça pourrait partir dans tous les sens, ce podcast, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à la maternité, je me suis aussi dit qu'en fait, on n'était pas... Enfin, je me suis aussi dit, parce que j'ai entendu des choses et que ça a nourri ma propre réflexion, moi, je suis à mon compte. Je me dis, si je deviens mère, en fait, déjà, je vais partir, je sais pas comment... Allez, trois mois en congé de maternité. Est-ce que mes clients vont pas me remplacer et en fait m'oublier quand je vais revenir? Comment je vais retrouver une activité, en fait, pour pas dépendre financièrement de mon conjoint? Ça me fait vraiment peur aussi de pas... Et encore plus en tant qu'indépendante, en fait, où t'as pas l'assurance de retrouver
Bien sûr. Oui, parce que le marché du travail va très vite, en fait. Et en plus, 3 mois, je crois que c'est au mieux. Mais des fois, t'as des prérogatives où tu sais que ton enfant, tu peux pas... Enfin...
Bah oui. Non, mais 3 mois, c'est rien du tout, en fait, quand tu y réfléchis.
Ouais,
tu vois.
C'est ça. Il y a des femmes qui étaient parties pour 3 mois et elles se sont rendues compte que c'était trop tôt et ça a chamboulé toute leur carrière, quoi. En tout cas, les 2 premières années, je crois. Après, bon. C'est vrai que c'est une question qu'il faut vraiment se poser, surtout quand on est à son compte et on sait à quel point c'est précarisant. Enfin, le moindre petit...
Exactement. Voilà. Ouais. Et puis, vraiment, ça dépend après les relations que tu as avec tes clients. Mais tu as des clients qui n'ont rien à faire. Tu leur dis, je pars 3 mois, bah, très bien, il va falloir trouver quelqu'un pour te remplacer. Ouais, ouais. Et puis, bah, en fait, cette personne convient, tu reviens. Ouais, mais non, mais enfin, tu comprends.
Salut, quoi. Ouais. Voilà.
Donc ça me fait peur. Et au-delà de mon statut d'indépendante, il y a aussi en fait, la place que prend le travail dans nos vies. Et qui fait que élever un enfant, c'est prenant. Il faut du temps. T'as envie de faire les choses le mieux possible. Et où est-ce que tu trouves ce temps-là quand t'as déjà toute ta journée occupée par un travail qui te fatigue?
Qui te laisse peu de temps pour te retrouver soit avec ton compagnon ou même avec toi-même, j'imagine.
Ouais. Bah ouais. Ouais. Et c'est des questions que forcément je me pose. Est-ce que avoir un enfant dans cette vie-là, en tout cas, que ce soit mon compagnon et moi, on travaille beaucoup. On travaille vraiment beaucoup, beaucoup. Et on est déjà très fatigué par ça.
Ouais.
Et je me dis que fatalement, en plus, en étant à mon compte, c'est moi qui vais plus facilement prendre ce temps pour m'occuper d'un éventuel enfant.
Et pour l'instant, c'est trop compliqué, quoi.
Ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Et puis, c'est pas non plus une situation que je veux pour nous. C'est pas non plus... J'ai pas envie de me retrouver à la maison à m'occuper de l'enfant pendant que lui va travailler. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie pour nous. Donc, parfois, je me dis, en fait, ça se trouve, pour avoir un enfant, il faut qu'on change complètement de vie, qu'on s'en aille de l'île de France et qu'on ait d'autres rythmes de vie. Et pour l'instant, ça me semble pas... C'est pas ce qu'on veut pour nous maintenant. Et on vient d'acheter un appartement, tu vois.
Qui est très beau, très bien rénové. C'est vrai, vous avez passé du temps dessus, donc je comprends.
C'est pas terminé, j'ai pas montré toutes les zones où il y a encore des cartons de l'année dernière, mais en fait, on s'est aussi posé la question, tu sais, quand on a emménagé dans cet appart, on a un bureau, enfin, on a un 3 pièces, on pourrait avoir une chambre d'enfant, mais c'est aujourd'hui notre bureau. On a un grand bureau qu'on partage en plus, parce que maintenant, mon copain, il est quasiment full télétravail. Et on s'est dit, il n'y a même pas de place pour cet enfant. Enfin, ce serait au début, on trouverait un coin, mais enfin.
Donc, il aurait besoin d'un espace.
Il aurait besoin d'une chambre à lui, quoi. Puis c'est ce que je voudrais pas, si on avait un enfant, je voudrais pas qu'il vive dans un coin de... Enfin, au début, c'est pas grave, tu vois, mais...
Oui, t'as envie de lui donner quelque chose de sympa.
Ouais, et c'est ça.
À la hauteur, j'imagine, ouais. Mais lui, il en pense quoi, ton compagnon, de tout ça? Tous ces questionnements, parce que les hommes, on a l'impression qu'ils se posent jamais la question. C'est un coup je veux, un coup je veux pas, il n'y a pas d'entre-deux.
Je pense déjà, lui, il ne ressent pas du tout la pression de la biologie, donc il est moins pressé par « attends ». En plus, il est plus vieux que moi, tu vois, il va avoir 37 piges, il pourrait être plus... tu vois. Alors que c'est plus moi qui suis moteur sur la question. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur... On est au diapason. On est tous les deux, on se dit « maintenant, c'est pas du tout le moment, il n'y a pas de place pour un enfant dans nos vies maintenant ». Mais peut-être que
Ah, lui aussi, c'est en suspens.
Ouais.
Il se laisse...
Ouais, ouais.
Ouais.
Ouais,
d'accord. Et il te met pas spécialement la pression.
Pas du tout, pas du tout.
Ni dans un sens, ni dans l'autre.
Non, 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 du tout. Il est même assez mignon dans le sens où... Enfin, je trouve ça mignon, mais en fait, tu te dis, ça pourrait juste être normal. Mais quand je lui ai dit que j'allais faire... En fait, j'ai fait tester ma réserve ovarienne pour savoir où est-ce que c'en était, est-ce que j'avais encore un peu de temps pour me décider ou pas. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit « Mais qu'est-ce que moi je peux faire Dis-moi et tout. » Et c'est marrant parce que du coup, j'ai posé la question... moi, je suis suivie par une sage-femme parce que, je sais pas, elle était sur gynenco.com, je sais pas si tu connais. Mm-hmm. Ouais, donc, un site qui compile des personnels soignants qui sont...
safe.
Voilà. Et elle est très safe. Je suis très contente d'avoir changé de gynécologue parce qu'avant, j'en avais une qui me mettait beaucoup la pression et qui, à chaque fois que j'allais la voir, elle me demandait « Toujours pas de projet bébé ?»« Ah bon, quel âge vous avez déjà ?» Et vraiment, je ressortais à chaque fois de son cabinet en ayant l'impression que j'avais l'utérus qui était en train de pourrir, hein, vraiment. Tu vois.
Genre, il y a une date de père.
Exactement, ouais. Et en fait, à cette sage-femme, je lui ai parlé de mon indécision et du fait que j'avais plus non plus énormément de temps devant moi pour en prendre une de décision. Et elle m'a dit, et je lui ai dit, est-ce que je peux faire tester ma réserve ovarienne, faire les choses un peu dans le sens inverse, en gros, pas tester puis voir ça marche pas et
ouais.
Fait, voilà, mais juste comme ça. Et puis en fait, je fais beaucoup de choses pour tester mes réactions, pour voir comment ça fait me
sentir. C'est intéressant,
tu vois.
Ouais.
Et du coup, mes résultats sont normaux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quand j'ai été voir un gynécologue obstétricien, parce qu'elle, elle pouvait pas me faire les examens, je lui ai dit, mon conjoint voudrait savoir si lui peut faire quelque chose, s'il y a quelque chose à faire dans son côté.
À vérifier, à checker.
Voilà.
Ouais.
Et j'ai trouvé la réaction du gynéco, mais tellement symptomatique de la société dans laquelle on vit. C'est qu'il m'a dit, c'est pas texto ce qu'il a dit. Mm-hmm. Il m'a dit, il faut savoir raison garder. C'est pas du tout les étapes dans lesquelles il faut faire les choses. Et en gros, en filigrane, ce que j'ai entendu, c'est de toute façon, c'est sur vous que va reposer la responsabilité.
Oui, la charge en fait.
Ouais.
Principale, on va dire.
Le succès ou non d'avoir un enfant du fait de. Que moi, en fait, j'ai une date de péremption versus pas mon mec, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, lui, je l'aurais pas mis sur gynenco.com.
Puis même, il aurait pu avoir des problématiques de fertilité aussi. Enfin, je veux dire,
c'est
quand même connu que maintenant, ça touche tout le monde.
On est d'accord, ouais. Donc, depuis le mois d'août de 2021, c'est possible de faire congeler ses ovocytes sans raison médicale particulière. Donc, c'est une démarche que je vais entamer, comme ça. Je suis plus sereine avec l'idée de « là, maintenant, tout de suite, c'est pas le bon moment ». Et je sais pas du tout, j'arrive pas à me fixer sur « non, j'en aurai pas » ou « oui, j'en aurai ». Et si dans 5 ans, quand j'aurai 40 ans ou même un peu plus après, on décidait de changer de vie, d'avoir une famille, etc., et que ça convenait à ce moment-là dans notre vie... ça me rassure de me dire que j'ai ce backup, en fait. Si jamais ça fonctionnait pas naturellement, on va aller chercher mes ovaires d'il y a 5 ans. Mes ovocytes d'il y a 5 ans. Et on verra, du coup, ce que ça donne.
Quoi.
Ça me rassure beaucoup. Et je suis contente qu'on ait enfin cette possibilité de le faire sans avoir de raison médicale à invoquer. Donc,
Ouais, c'est vrai que c'est une grande avancée.
Ouais.
Parce que...
Enfin.
Avant, toutes ces décisions médicales et politiques, on va pas se mentir, faisaient que la femme, elle avait doublement la pression. Parce qu'avant, entre la contraception, l'IVG, qui était incertain, t'étais un peu obligée de subir tes enfants, ou en tout cas une maternité non désirée. Là, il y a un panel de décisions qui ont été faites, et qui font que tu peux te laisser une marge et avoir moins cette pression. Quoi.
Ouais.
Moi, je trouve ça génial.
Moi aussi. Que tu sois pas obligée, parce que moi, j'avais des connaissances qui l'ont fait, mais en allant en Espagne
Belgique. Avant, c'était ça, oui.
Et c'était à tes frais, et ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Donc,
c'était un budget, et du coup, tu le faisais, il fallait encore doublement réfléchir et se détacher.
Alors que là, ça s'est pris en charge par la Sécu. Ouais. Donc,
c'est cool.
on est quand même dans un... Voilà, c'est des points, on est des choses positives dans tout notre système médical aussi. Il y a des choses très bien qui se passent.
Et là où t'en es maintenant, tout de suite, est-ce que tu continues à te documenter? Est-ce que finalement tu te laisses un petit peu... tu retournes à vaquer à tes occupations en te disant bah, peut-être qu'un jour je vais me réveiller et ça va être le jour ou non?
Beaucoup moins, parce que mais c'est vachement venu du fait d'avoir toute cette réflexion, d'avoir énormément écouté de podcasts, lu des posts. Je m'étais abonnée à beaucoup de comptes aussi Instagram qui parlaient de maternité, de regrets maternels, de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et le fait d'avoir cette diversité d'expériences et de témoignages, ça m'a fait me rendre compte. En testant mes réactions et en essayant de me projeter dans une expérience plus qu'une autre, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas à prendre de décision et qu'en fait, bah, juste peut-être que je n'arriverais pas à avoir une décision oui ou non maintenant. Et peut-être que ça viendra jamais en fait, et que la vie va décider pour moi. Je suis un peu plus en paix aussi avec ça. Parce que, pour en revenir à ce que je disais un peu plus tôt, c'est que le fait d'avoir vécu pendant 10 ans avec un mec violent, et je me suis oubliée, j'ai eu l'impression d'être en prison. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, j'étais en prison avec ce mec. J'ai pas pu vivre les choses que j'avais envie de vivre pendant toutes ces années. J'avais énormément d'interdits, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais, j'avais pas le droit de... La danse a toujours été ma passion, j'avais plus le droit de faire de la danse.
Enfin, mais reprends en fait, depuis quelques années. Ouais.
C'est ça, ça fait 6 ans bientôt que j'ai quitté cette personne, et je me suis tout de suite remise en couple. Quand tu es au début dans une relation, t'es emporté dans une tornade de sentiments où en fait tu t'oublies un peu dans la relation, où en fait c'est tellement génial de voir l'autre, et je m'en suis vachement nourrie et je regrette pas du tout. Mais en fait maintenant j'en suis à un stade où j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de faire des choses pour moi, de vivre des expériences. Je soigne vachement l'ado que j'étais, ou même l'enfant, ou la très jeune adulte qui n'a pas pu faire ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, je m'occupe de moi, tout simplement, et j'ai encore besoin de ce temps-là pour m'occuper de moi. Et peut-être qu'après, quand j'aurai le sentiment de m'être suffisamment occupée de moi, je pourrai... peut-être m'occuper de quelqu'un d'autre et continuer de m'occuper de moi, bien sûr, aussi.
De toute façon, on ne peut pas bien s'occuper des autres si soi-même...
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Pour moi, c'est fondamental.
Donc, le fait d'en être arrivée à cette conclusion, à cette conclusion où j'avais besoin de m'occuper de moi-même, je ressens moins l'envie, le besoin, en fait, d'écouter. J'ai l'impression d'avoir pas fait le tour de la question, mais de voir un peu de reconnaître un peu des choses qui reviennent souvent, et que toutes les expériences sont différentes, mais maintenant je suis plus ok avec l'idée que je suis indécise et que ça va peut-être pas changer.
C'est pas si grave en fait.
Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et je continue à être ouverte en fait à toutes ces petites choses qui me font ressentir que peut-être avoir une famille ce serait bien, ou peut-être qu'avoir une famille ce serait pas si bien que ça pour nous. Pas une expérience qu'on a envie de vivre ou qui est faite pour nous maintenant. Mais forcément, je suis hyper attachée à ma grand-mère. J'ai encore la chance d'avoir ma grand-mère qui a 94 ans. Elle a la tête de quelqu'un de 94 ans, tu vois, c'est quelqu'un auquel je suis hyper attachée et qui me rattache aussi beaucoup à mon enfance. Et je trouve que la question aussi de la maternité, de la parentalité, ça te ramène vachement à ton enfance.
Bien sûr.
Et ça c'est un truc où j'ai pas encore mis les mains dedans.
Je comprends, c'est évident.
C'est parfois un peu douloureux en fait. Mais j'ai aussi ce truc de, en fait, j'ai tellement de bons souvenirs avec ma grand-mère. Vraiment, je crois que mes principaux souvenirs les plus doux d'enfance sont liés à elle, vraiment tout. Et en fait, j'adorerais... ma grand-mère est italienne, en fait. Je suis moitié italienne, moitié française. Et j'adorerais aussi pouvoir... avoir un héritage à donner, pouvoir partager une partie de ma culture italienne à mon enfant.
Transmission.
C'est ça. Il y a vachement d'idées de continuer à faire vivre des trucs que j'ai reçus de ma grand-mère. Mais c'est vachement lié à ma grand-mère ou beaucoup, beaucoup lié à ma grand-mère, ouais. Mais oui, donc j'aimerais lui parler italien. Et quand j'ai ces petits trucs-là, ce moment où mon mec n'était pas bien et où j'ai cru qu'il allait mourir, je trouve que c'est des indices que je prends, voilà. Et où je vais prendre ça avec moi et on verra où ça nous mènera tous les deux.
En tout cas, merci beaucoup Laetitia.
Merci à toi.
D'avoir partagé toutes ces réflexions. Je suis sûre que ça en aidera plus d'une à déculpabiliser et dédramatiser. On peut rester dans l'indécision, c'est pas grave.
Oui, c'est pas grave.
La vie continue.
Oui, ouais, carrément, carrément.
Il y a de la place pour les indécises aussi. À très bientôt Laetitia.
Merci Sarah pour ton invitation. À bientôt.
Salut. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous et à très bientôt.